j'ai l'impression que c'est une voix en fait qu'on n'a pas trop entendue de gens qui étaient contre. Voilà, donc on se présente comme ça.
Merci, nous savons ce que nous abordons dans notre débat. Un questionnement avait surgi lors de la Covid étant donc l'annulation probable de la célèbre course, ce qui pour autant n'a pas eu lieu. Pour des raisons complètement différentes, l'année suivante, il a été envisagé que cette course soit supprimée pour des raisons d'écologie. Le taux d'essence utilisé pour la course est-il problématique ?
Je crois que c'est pas tellement la consommation d'essence en tant que telle, parce que si vous allez me comparer ça à la consommation de je sais pas combien de Boeing qui décolle, etc. On n'est pas là pour dire que c'est, même si c'est pas négligeable, mais que c'est pas, alors j'ai aucune idée de nombre de véhicules qui vont tourner pendant 24 heures, mais c'est une consommation qui est pas délirante, c'est plutôt dans quel parcours de transition une course automobile comme ça a sa place. Et est-ce que c'est vraiment ce genre d'événement qu'on peut continuer à développer, promouvoir, etc. Parce qu'on est clairement dans une phase toujours de croissance. Hein. Le circuit veut s'étendre, il se rénove, etc. Et est-ce que vraiment on pense que faut continuer cette voie-là, qui est clairement quand même la promotion de la voiture individuelle, puissante, masculine. Enfin, je veux dire, on peut. C'est quand même, je suis désolé de le dire, hein, mais c'est quand même toutes les caricatures. Un peu qu'on peut avoir dans notre société autour de la voiture.
Je pose les effets
secondaires qu'on peut avoir quand même.
Je réagis de manière un peu piquante à ce que vous venez de dire, mais du coup l'automobile c'est masculin.
Bah, je suis désolé, mais vous regardez les publicités aujourd'hui du SUV, c'est rarement la femme au volant. C'est quand même, je veux dire, c'est le cadre sur son SUV, sa maison, etc. Qui est d'ailleurs tout le temps sur des villes sans une seule voiture, vide. Et puis, cool. Oui, on peut pas, je pense qu'on peut pas nier le fait que l'automobile, dans son image, est clairement.
Mais déjà aussi pour cibler l'automobile en tant que telle, c'est en fait, il faut bien comprendre que l'ACO, donc les organisateurs de la course en fait, déjà juste pour mettre les bases aussi, le circuit des 24 heures du Mans est géré en fait totalement de façon publique par alors j'ai pas le nom qui me revient comme ça, mais même revenir par la commune du Mans, la région et le département, et en fait c'est la CO et loue le circuit pour pouvoir réaliser les 24 heures tous les ans, et en fait depuis 100 ans la CO en fait il s'est construit comme un lobby principal de l'automobile, donc en fait leur logique c'est au travers de cette compétition, montrer que l'automobile, eh ben, elle est résistante, elle peut faire plein de choses, technologiquement, elle est capable de prouesses, etc. Et donc, en fait, c'est en s'attaquant à cette course et à toutes les courses qu'il y a sur le circuit, qu'on s'attaque aussi indirectement à l'automobile. Donc, c'est pour ça que là, en fait, on a fait le raccourci déjà, mais en fait, c'est important aussi de placer les choses comme elles sont.
Vous remarquerez que c'est Audi, Peugeot, oui. Porsche, etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même des
Mercedes de voitures qui Toyota, Mercedes, ils roulent sur les 24 heures, quoi.
Voilà. Non, mais c'est toutes les marques. Non, mais je veux dire, c'est clairement que des marques de voitures.
Oui.
C'est pas des gens qui veulent faire des protos et qui ont rien à vendre derrière.
Ah oui.
On est d'accord c'est des constructeurs automobiles qui utilisent les 24 heures du Mans comme de la publicité pour après faire la promotion de leur voiture.
C'est pas expérimental.
Non.
Ouais.
C'est sûr. C'est pas rouler avec des prototypes. On est bien d'accord.
Bah oui, mais pourtant ça marche. Ils font de la publicité, mais ça marche.
Alors ça marche dans le sens où il y a beaucoup de gens qui viennent.
Oui, mais après, du coup, ils testent les moteurs. Et puis, c'est vendu. Ça fonctionne dans le marché.
En fait, ça fait de la publicité. Pourquoi les... Enfin, la logique qu'on comprend derrière, pourquoi les constructeurs automobiles font venir leurs voitures, c'est parce qu'en fait, c'est un peu des preuves de capacité pour eux de résistance, de savoir technologique, qui font que derrière, en fait, ils peuvent vendre leurs voitures à monsieur tout le monde. Voilà, c'est ça la suite. Et... l'exemple par exemple c'est pourquoi Porsche a une partie où on se balade à côté du circuit, on a un bâtiment entier qui est dédié à Porsche par exemple, qui montre bien que en fait ces entreprises là sont totalement dedans quoi.
Et la pollution c'est un des éléments déclencheurs dû à la question que vous posez pour l'annulation de la course.
Pas directement, parce que comme je disais tout à l'heure, en fait, c'est un peu le phare de l'automobile des 24 heures et toutes les courses qu'il y a. Euh, mais euh, mais en fait, on s'est rendu compte que en épluchant le bilan carbone de la CO et donc de l'événement des 24 heures, en fait, bah la course en elle-même c'est 6 ou 7%, enfin en tout cas c'est moins de 10% de l'événement complet. En fait, ce qui représente la majorité, c'est je crois que c'est 65%, et en gros c'est les spectateurs qui viennent, et donc c'est leur transport qui eux est en voiture, mais c'est aussi des gens qui viennent en jet privé. En fait, ce week-end-là, il y a 70 jets privés qui viennent au Mans, donc c'est totalement dingue. Et donc en fait, bah voilà, tous ces gens qui viennent au circuit, c'est ça qui représente la majeure partie de ce qui émane en fait au niveau carbone. Mais alors oui, c'est forcément élevé. On l'a rappelé tout à l'heure que c'est quand même élevé, mais pas tant que ça en regard d'autres choses comme l'aviation ou autre. Nous, en fait, ce qu'on met en lien, c'est que, en fait, l'automobile, ça a une place vraiment très importante de nos vies et, en fait, qui est même trop importante. On l'a dit tout à l'heure par rapport aux pubs qui représentent des gens qui roulent dans des villes totalement vides avec des voitures énormes et voilà, ça représente la liberté. Et en fait, bah, c'est tout sauf la liberté, une voiture. Parce qu'en fait, une voiture, si demain il n'y a plus de carburant, bah, on n'est pas capable de la faire rouler. Alors peut-être qu'on va la faire rouler un peu à l'huile de friture et que ça va durer une ou deux semaines. Mais en fait, pour la réparer, eh ben, aucun de nous, je pense, bon, déjà ici, mais
est-ce qu'on lance le débat des voitures électriques à hydrogène?
On peut en parler, mais en fait, voilà, c'est pour dire aussi que ce qui est vendu finalement par la CO, la liberté, la puissance automobile, eh ben, c'est totalement factice. Et quand on regarde bien, en fait, on est surtout très dépendant. Et nous, ce qu'on veut dans notre collectif, c'est montrer que, en fait, on voudrait pouvoir enlever ces chaînes qu'est l'automobile, que sont et ce qu'on appelle en fait la civilisation de la bagnole. C'est qu'en fait, on est obligé par le fait que des politiques ont mis bah, les centres commerciaux loin des villes, des centres-villes, même les commerces, enfin les services publics à certains endroits, on n'a plus de commerce dans les petits villages, etc. font qu'on est obligé tous d'avoir nos voitures. Et en fait, bah voilà, on lance le débat encore plus large, et ça démarre des 24 heures, mais ça va beaucoup plus loin, où on dit, bah nous, on veut pouvoir ne plus utiliser notre voiture tout le temps, en fait, parce que on est enchaîné à ça, et on veut pouvoir avoir une vie différente de ça.
Ok, mais alors moi je sais qu'il y a, enfin bon, alors ça dépend après à quelle échelle, mais il y a des échelles territoriales, on va dire, il y a des villes qui justement insistent plus sur le développement de leur réseau de transport en commun. Aussi sur les périphéries, pour contrebalancer un peu ça, et inciter les gens à se déplacer avec les réseaux de transport en commun en périphérie. Alors, après, on en conviendra que si on est seul, et par exemple qu'on va faire les courses pour une semaine, se trimballer de sacs sur des transports en commun, c'est encore faisable. Si on a une famille de quatre à nourrir, se trimballer un caddie entier, c'est un peu plus compliqué. Et donc là, effectivement, ça résout pas le problème de la voiture. On est bien d'accord.
Nous, on est quatre à la maison, on n'a pas de voiture, mais ouais.
Après, je dis ça parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens qui agissent ainsi. C'est pour ça que je dis ça.
Ce que j'aimerais juste ajouter, c'est que le transport, c'est en gros 30% de nos émissions de CO2 en France.
Ouais.
D'accord. La voiture, c'est 15%. C'est le seul secteur qui n'a pas du tout entamé une mue de décroissance des émissions de CO2. D'accord. Clairement, les autres secteurs ont commencé à réduire, etc. C'est pas le cas de la voiture. Nous, on est convaincus, c'est au même titre que aujourd'hui, je pense que tout le monde trouve ça cohérent qu'on arrête de faire de la publicité pour les cigarettes. Est-ce que c'est cohérent de continuer à faire de la publicité pour un objet dont on sait pertinemment qu'il faut réduire son usage?
Ouais, bien sûr.
Moi je suis désolé, mais je le comprends pas, en fait. On dit pas que c'est facile aujourd'hui de se passer de la voiture et évidemment que aujourd'hui, il y a une offre de transport en commun qui est certainement sous-développée, etc. Et dans plein de cas, c'est difficile de ne pas avoir de voiture individuelle. Mais pourquoi on a besoin de continuer à faire la promotion de cet objet-là de manière aussi intense? Enfin, je veux dire, quand on regarde les chiffres qui sont mis dans la publicité, rien que je crois que sur les SUV, c'était 2 milliards en 2022 pour les SUV en France. C'est complètement hallucinant le focus qu'on met pour promouvoir et pour nous pousser à acheter des voitures quand même plus grosses. Du coup, au passage, ça fait partie du deuxième sujet que je voulais aborder, c'est qu'on n'est pas non plus du tout vers des petites voitures plus sobres, etc. Et tous les gains techno qu'on pourrait faire au niveau des moteurs, etc., on les perd parce qu'on fait des voitures plus lourdes. C'est quand même dommage, quoi. Et donc, voilà, nous, on essaie de mettre ça sur la table et clairement, les 24 heures du Mans ne vont pas, à notre avis, dans une direction qui est la bonne.
Pourtant, je rebondis sur ce que vous venez de dire. Les 24 heures ont vu qu'il y avait certains soucis à régler et ils ont commencé à entamer la mise en place d'un nouveau type d'essence.
Je pense avoir plus.
Est-ce que c'est bien?
Alors, quel type d'essence?
Alors, moi, ce que j'ai entendu, c'est qu'ils ont fait des choses avec des légumes, quelque chose comme ça, je crois. Alors, je sais plus lequel, mais oui, ils ont réussi à avoir quelque chose. Et là, en fait, ça va à l'encontre un petit peu de ce que la publicité, de ce que vend le rêve que vend les 24 heures. Parce qu'en fait, après on va pouvoir en parler avec l'hydrogène aussi, mais en fait les carburants, les technologies qui sont actuellement mis un peu récemment dans les 24 heures sont absolument pas possibles de faire pour les tout le monde. En fait, ces carburants-là, je crois que c'est 7 à 8 euros le litre, sachant qu'en plus si on voulait les développer à grande échelle, là, vous imaginez qu'on va pas réquisitionner tous les champs pour faire du carburant, ça serait quand même assez illogique. Et donc en fait, c'est juste un effet d'annonce du greenwashing. Pour pouvoir dire, vous voyez, nous, pot dans l'émission, enfin, pot dans la course, on émet un petit peu moins.
Greenwashing et vendre du rêve. Est-ce que ce sont les slogans, selon vous, des 24 heures?
Fortement, quand même. Après, c'est pas juste le slogan. On pourrait rajouter, se faire de l'argent, en partie sur le dos du contribuable. Ça, on pourrait rajouter. On pourrait rajouter, oui, le fait de mettre en valeur la voiture de façon joyeuse, alors qu'elle pourrait être de façon négative. Pour ajouter d'autres arguments, je sais pas.
Hugo, tu voulais intervenir.
Je voulais intervenir et j'ai oublié ce que je voulais dire. Je suis désolé pour cette interruption.
C'est pas grave. Eh bien, on fait une petite pause musicale et on revient juste après.
Ouais, c'est ça. Tu nous fais écouter quoi?
On va écouter Discord, avec cet accent anglais. Discord de Eurobeat Bonnie. Brownie, pardon. Eh bien, à tout à l'heure et bonne écoute. I'm not a fan of puppeteers, but I have a nagging fear. Someone else is pulling out the strings. Something terrible is going down through the entire town. Freaking anarchy and all it brings. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Status quo, but not in letting go. Now the world is being torn apart. A terrible catastrophe played by a symphony. What a terrifying work of art. I can't sit idly, no, I can't move at all. I curse the name, the one behind it all. Discord, I'm howling at the moon and sleeping in the middle of a summer afternoon. Discord, whatever did we do to make you take your world away? Discord, are we a prey alone, or are we just a stepping stone for taking? In the middle of a summer afternoon.
Discord, what havoc did we do to make you take our world away? Discord, are we a prey alone? Or are we just a stepping stone for taking back the throne? Discord, we won't take it anymore, so take your tyranny away.
On est de retour sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans pour place au débat, Églantine.
Oui, vous êtes bien de retour sur les ondes de Radio Alpa dans place au débat qui s'intéresse à la grande course des 24 heures du Mans, je le rappelle. N'oubliez pas d'interagir et de réagir sur les réseaux sociaux, Charlie.
Exactement, sur le Facebook et l'Instagram de Radio Alpa. Donc n'hésitez pas à envoyer des questions, à réagir et ben, on vous répondra avec plaisir.
Je rappelle donc ce dont nous avons parlé durant la première partie de ce débat. Les 24 heures du Mans.
Oui, alors effectivement, il y a des chances, oui, puisque c'est le sujet de l'émission.
Donc, niveau de la pollution que cela implique, les spectateurs qui se déplacent.
Oui, on a vu notamment que les spectateurs étaient la première source de pollution des 24 heures, puisque ça représente plus de 50%, il me semble.
65%,
voilà. On a vu que même si c'était pas à négliger, les voitures représentaient 6-7% en gros de la pollution, et que la CO faisait un énorme lobby et faisait un peu du greenwashing, donc c'est-à-dire vendre du rêve, et y compris du rêve écologique, à dire pourquoi pas l'hydrogène, pourquoi pas l'électricité. Ça, on y reviendra d'ailleurs dans la suite de l'émission, mais qu'en fait finalement c'était beau pour ne pas dire grand-chose, puisque c'était vraiment juste se faire une image, quoi, en gros.
Complètement. Et donc, on va rebondir sur la question de l'hydrogène. Est-ce que l'hydrogène, c'est l'avenir, en quelque sorte, contre l'essence ?
Alors, l'hydrogène, moi, je voudrais quand même déjà rappeler que ce n'est pas une source d'énergie. Hein ? Il n'y a pas de puits d'hydrogène sur lequel on pourrait, comme le pétrole, se servir. Donc, l'hydrogène, il faut le produire. D'accord, on peut plutôt assimiler ça à de l'électricité, l'hydrogène. C'est un vecteur d'énergie. Et donc, pour produire de l'hydrogène, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? On prend du méthane, donc concrètement du gaz de Russie. Ou...
Bah, du coup, maintenant moins, j'imagine.
De quoi ?
Du coup, maintenant moins, j'imagine. Ah ouais,
on prend du gaz, on le fait chauffer pour le fractionner, en fait. Et c'est comme ça, aujourd'hui, qu'on fait de l'hydrogène. Donc, je vous laisse imaginer le désastre en termes d'émissions
de CO2.
De CO2 de la production d'hydrogène. Aujourd'hui, c'est comme ça qu'on produit à plus de 95% l'hydrogène. Je crois que c'est même 96%.
Alors,
le reste, effectivement, c'est toujours ce qu'on nous vend pour l'hydrogène vert, qui est fait à partir de ce qu'on appelle l'électrolyse de l'eau. Donc, on prend de l'électricité. Et à partir de cette électricité, on produit de l'hydrogène. Donc ça, déjà, je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, l'hydrogène vert, c'est un leurre. Vous n'êtes pas sans vous rappeler que à l'automne, on n'était pas très serein sur la production d'électricité. Donc, l'hydrogène vert repose sur le mythe que l'électricité, on en a de manière absolument abondante et qu'on pourrait produire de l'hydrogène par électrolyse de l'eau, comme ça, de manière illimitée. C'est scientifiquement, ça ne repose sur rien. On n'est pas en surplus du tout d'électricité. Voilà. Donc l'hydrogène vert, voilà. Après, faut avoir en tête que l'hydrogène, on est vraiment sur un process compliqué, hein, parce qu'on va faire de l'hydrogène, on va devoir le compresser à des pressions de 400, 600, 700 bars. Donc, faut des réservoirs extrêmement spécifiques qui résistent à ces très hautes pressions. Après, à bord du véhicule, cet hydrogène, on le retransforme en électricité pour après en faire un moteur électrique. Enfin, après, c'est un moteur électrique qui permet de faire avancer la voiture. On est sur l'ensemble de la chaîne. Si on prend ce qu'on prélève, ce qu'on utilise comme énergie par rapport à l'énergie utile au niveau de la jante, l'ensemble du rendement, c'est de l'ordre de 15%. D'accord ? C'est-à-dire que vous avez 85% de l'énergie que vous utilisez qui part dans la nature sur toutes les différentes phases de transformation. Et le dernier point de l'hydrogène, c'est qu'on utilise une quantité de matériaux rares qui est complètement délirante, du cadmium, etc.
Le platine, entre autres.
Voilà. Pour les phases de transformation, notamment entre l'hydrogène et l'électricité. Donc, faire croire qu'on pourra développer massivement la voiture à hydrogène, c'est absolument un leurre. Il y aura peut-être des voitures, enfin, j'espère pas, mais d'ailleurs, c'est le positionnement, hein, des voitures très très haut de gamme à 200 000 euros pour faire de l'hydrogène, etc. Mais la voiture de tout le monde ne sera pas à hydrogène dans les années à venir. Et clairement, il faut arrêter de vendre ça comme la transition.
Alors, admettons qu'on... Parce que là, c'est, par exemple, il y a le... Bon, je ne préjuge pas de savoir s'ils vont le faire ou pas, mais en tout cas, ça a été annoncé. Le gouvernement actuel veut lancer un grand plan en France, un plan hydrogène, qui consiste justement à ce que d'ici 10 ans, on soit passé au niveau de l'hydrogène à plus de 50% d'hydrogène à partir de l'électrolyse de l'eau. Admettons que l'électrolyse de l'eau se démocratise. Et admettons que les voitures à hydrogène se démocratisent. Et en général, quand quelque chose se démocratise, le prix baisse à l'unité, avec le temps du moins. Et du coup, est-ce que une électrolyse de l'eau majoritaire plus une démocratisation des véhicules permettrait peut-être que le rendement soit plus intéressant et donc bah, de rendre aux particuliers le service de l'hydrogène?
Non, mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, le rendement est vraiment pas bon. Et moi, ce que j'ai vu dernièrement, c'est que, en gros, par rapport à l'électricité pour un moteur qui est juste électrique à un moteur qui utilise de l'hydrogène, en fait, en gros, on a 3 fois plus d'énergie consommée pour la même distance. Ce qui fait qu'en gros, là aujourd'hui, on se dirige sur certains bus et certains camions poubelles qui vont pouvoir avoir ce genre de moteur-là. Et vraiment, c'est dans les cas où ils vont avoir des grandes distances à faire que des batteries. Ça serait trop compliqué à avoir à l'intérieur du véhicule. Voilà, c'est vraiment uniquement là-dessus. Et en fait, pourquoi le gouvernement, comme tout, en fait, toutes les communes, toutes les intercommunalités de France, en fait, il y en a vraiment plus d'une dizaine ou une quinzaine, je crois, qui se sont lancés dans des plans individuels à essayer de développer ça. Rien que nous, au Mans, je crois que dans le dernier bulletin communal, je crois qu'il y a 300 000 euros qui est mis pour des études pour développer ça. Mais en fait, c'est juste, voilà, on essaye de nous vendre quelque chose. On essaye de nous faire dire, vous voyez, le futur, grâce au progrès, on peut faire des choses, mais sauf que, bah, comme on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais il suffit tout simplement, déjà, on va réduire le poids des véhicules, on mettrait des moteurs plus petits, on mettrait des vitesses plus basses, et ben en fait, on aurait un gain qui serait largement supérieur à toutes ces innovations technologiques. Donc,
je vais répondre quand même à votre question sur le prix. Qui potentiellement pourrait diminuer si on fait du
ouais, moi j'étudie ça sur la loi des marchés souvent, quand plus il y a de smart, plus il y a, enfin c'est l'offre et la demande, on va dire, ouais, que si l'offre dépasse la demande, les prix descendent.
C'est pas vrai avec des matériaux rares. En fait, aujourd'hui, clairement, le coût du platine, du cadmium, etc., c'est ça qui va faire que le prix est complètement délirant, et ces matériaux là ils sont pas prêts de baisser sur le marché.
Donc c'est les prix des batteries, finalement, puisque c'est essentiellement
ouais,
les batteries,
c'est encore des matériaux qui coûtent encore plus cher. Ouais. Le lithium, entre guillemets, coûte pas si cher que ça par rapport à d'autres matériaux qu'on utilise dans la pile à combustible. Ça, c'était sur cette question-là. Sur la question, comme si en France, on serait capable de produire massivement d'hydrogène vert, je reviens sur le fait qu'on a tout simplement un problème de production d'électricité, là, à l'instant T, sans avoir massivement développé du transport par hydrogène. Donc en fait, voilà, cet hiver, enfin, en 2022, on a massivement importé de l'électricité en France de nos pays, notamment de l'Allemagne. On fait que de cracher sur l'Allemagne qui fait son électricité à partir de lignite. Mais qu'est-ce qu'on a fait cet hiver ? On a importé massivement de l'électricité de l'Allemagne. Donc je veux dire, il y a un moment, voilà, faut arrêter ce mythe qui fait qu'il y a de l'électricité nucléaire à bon marché, en abondance, etc. C'est pas vrai. Après, dernier point effectivement, sur des usages très très spécifiques qui sont la benne à ordures ou peut-être des trains sur des lignes non électrifiées, voilà. Peut-être que dans ces cas-là, l'hydrogène peut avoir un sens, mais quand même, il y a vraiment une question à se poser sur si on prend l'ensemble du camembert de nos émissions, les bennes à ordures, ça représente combien ? Et on va mettre combien d'argent public pour réduire ce pourcentage-là ? Et pour cet argent public dépensé, est-ce qu'il faudrait pas mieux faire un plan vélo, faire un plan et puis laisser les bennes à ordures à l'essence, au diesel ou je sais pas quoi. Non, enfin, je veux dire, il y a un moment, il faut aussi du pragmatisme, je pense, par rapport à l'effort qu'on met.
Et donc typiquement, les 24 heures du Mans, ça ne rentre pas dans les cas spéciaux.
pas trop. Bah, non seulement sur l'événement même, mais en plus ce que ça représente, quoi, ce que ça dégage. Donc voilà, opposons-nous aujourd'hui, disons, on arrête. Et en plus, ce qu'on dit, c'est que si aujourd'hui le Mans, la municipalité, bah voilà, propriétaire de circuit, s'opposait vraiment au circuit, ça serait énorme pour la ville du Mans et la Sarthe. On serait représentés comme des gens qui ont vraiment fait un premier pas, voilà, pour la décroissance, mais pour la décarbonation, et ça serait super important, quoi. On pourrait vraiment être fiers de nous si on arrêtait cette course.
Et donc, est-ce que l'électrique pour les 24 heures du Mans, c'est la voie à suivre?
Mais nous, on pense qu'il faut pas continuer à développer les 24 heures du Mans. Donc ouais, après, on peut changer la motorisation. Si ça leur fait plaisir de changer la motorisation.
Disons que, est-ce que les 24 heures du Mans électriques réduiraient l'impact écologique?
Ou alors, si ça joue.
Si c'était les 6%, mais admettons que tout le monde vienne en électrique.
Non, mais il y a un problème de base qu'il faut comprendre dans le transport, c'est que déplacer 2 tonnes pour transporter un bonhomme qui fait 70 kilos, c'est un non-sens. Et on a beau faire de l'hydrogène, de l'électricité, etc., c'est un non-sens, en fait. Et ça, vous pouvez, d'un point de vue... C'est juste de la science, en fait. Vous pouvez prendre le truc dans tous les sens, ça marche pas. Et donc, on a un problème vraiment, sur les mobilités. Je regardais, là, avant de venir, c'est en 2021, l'INSEE qui a refait des stats sur comment les gens se déplacent en fonction des modes de transport, en fonction des distances, etc. Pour du déplacement domicile-travail de moins de 5 km, il y a encore 60% des déplacements qui se font en voiture. C'est vraiment typiquement l'exemple du déplacement qu'on peut faire, le domicile-travail, qu'on peut faire et 5 km, hein, qu'on peut faire dans une autre manière que de déplacer 2 tonnes pour un bonhomme qui va aller bosser, quoi. Et donc, c'est vraiment ça aujourd'hui la priorité.
Y compris dans les campagnes, parce que souvent, oui, quand on habite loin en campagne...
J'ai parlé des déplacements de moins de 5 km.
C'est pas vous.
Mais après, là, en fait, ce serait aussi déplacer le problème et le mettre en individualité. En fait, nous, ce qu'on dit, c'est vraiment une question politique, et c'est pour ça aussi qu'on prend la parole publiquement, dans le sens où on veut que le débat émerge. C'est parce que, en fait, forcément, tout un chacun n'a pas les réponses aujourd'hui. Et même au sein du collectif, on n'aurait pas à dire, on est tous en vélo, on n'utilise pas nos voitures, etc. En fait, des fois, on n'a pas le choix dans le monde dans lequel on vit, sauf si on devient Robin des Bois, Robinson Crusoe, à être chacun dans notre petite île. Ce qu'il faut, c'est que les pouvoirs publics fassent qu'il y ait des commerces qui reviennent dans les petits villages, les services publics. Et en fait, là, à ce moment-là, ça nous permettra d'utiliser moins nos voitures. Mais toutes les choses ne sont pas dans nos mains. Un exemple tout simple, c'est... Dans quelques mois ou dans quelques années, notamment au Mans, il va y avoir les zones zéro émission. Oui. Où on va plus pouvoir rentrer avec nos voitures polluantes dans les centres-villes. Mais ça, c'est encore une fois mettre le problème sur le dos de chacun et pas de gérer de façon collective. En gros, ça veut dire que les gens qui n'ont pas les moyens de changer de véhicule ou qui peuvent pas faire autrement, ils vont juste plus avoir accès. Et ce qui va pouvoir aller dans les centres-villes, c'est les gens qui auront de l'argent, qui vont pouvoir se payer des grosses voitures parce que ça va être des hybrides, des voitures qui sont encore plus... Enfin, il y a une certaine débilité à faire ça, comme on disait tout à l'heure, des choses qui sont de plus en plus grosse, de plus en plus technologique avec des matériaux rares, etc. Et tout ça pour pouvoir accéder au centre-ville. Donc, c'est une sorte de privatisation. C'est vraiment quelque chose qui va pas dans le bon sens, quoi, pour nous.
Ok. Bon, on se refait une petite pause musicale parce que ça fait un quart d'heure qu'on parle. Donc, il faut laisser maturer les idées et on revient juste après. On va écouter 27 Million de LZ7.
What the world's done, came to London. She's a nothing and no one, she's undone. Broken dreams, stolen freedom. Trapped in the night, trafficked and beaten. All a part of an evil economy. Nothing more than someone's commodity. A precious being, like you and me. A daughter, a sister, a somebody. She was drawn by the bright lights. She was tied up in their lies. She works right through the daylight. No voice, she's a slave to the night.
27 million, like me.
That's 27 million on this cool journey.
Be the freedom, come and stand up. We've got to rise up, open our eyes up. Be the voice, be the freedom, come and stand up. We've got to rise up, open our eyes up. Be the voice, be the freedom, come and stand up. We've got to rise up, open our eyes up. Be the voice, be the freedom, come and stand up.
After the man left, she
she's nothing left. No one, no love, no one to call a friend. She's stuck in the pit of hell. She's almost sick from the smell. She's numb, she's dead from the inside out. Her heart is screaming, but you don't hear the shout. Who's the voice? Who's gonna break the door down? Who wakes her up from the nightmare now? She was drawn by the bright lights. She was tied up in their lies. She works right through the daylight. No voice, she's a slave to the night.
27 million like me.
27 million need heaven's mercy.
De retour sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans pour Place au Débat, c'était 27 Million de LZ7.
Et oui, de retour avec Place au Débat sur le sujet des 24 heures du Mans. Ce dont on a parlé juste avant, c'était donc que l'électrique n'était pas une solution pour les 24 heures, que l'hydrogène n'était pas non plus la solution.
Et de manière générale, même pas que pour les 24 heures. Hein,
effectivement.
Visiblement, l'hydrogène, c'est un beau mythe aussi, hein, de ce qu'on a appris en tout cas. L'électrique, est-ce que c'est plus brinque-ballant que ça, ou si on faisait du tout électrique, est-ce que ça réduirait vraiment les émissions, ou parce que les matériaux qu'il y a dans les batteries électriques c'est des matériaux moins chers que par exemple celles dans les batteries hydrogène. Est-ce que ça ferait diminuer l'impact? J'en sais rien trop.
Si la question c'est de manière plus large, est-ce que la mobilité électrique est plus mature que la mobilité hydrogène? La réponse est oui. Mais encore une fois, une Tesla, faire croire qu'une Tesla avec 500 kilos de batterie, il y a 500 kilos de batterie dans une Tesla pour un truc qui fait plus que 2 tonnes, c'est aller dans la bonne direction? Non. Clairement, c'est plutôt sur des toutes petites voitures. Alors l'ami, alors ça dépend encore hein, quel je fais pas de pub pour Citroën, mais et clairement l'avenir de la mobilité, il est plutôt sur des petites voitures. Et effectivement, dans certains cas, le véhicule électrique, pourquoi pas. Enfin, je veux dire clairement, mais il y a quand même vraiment une question de fond à se poser sur comment on doit se déplacer demain. Et clairement, on peut pas continuer à se déplacer. En voiture individuelle aussi massivement qu'on le fait aujourd'hui. Et encore, je rejoins ce que disait Victor tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est pas l'individu en lui-même auquel on lui fait un reproche, mais nous on préférerait que au lieu de mettre que la ville mette de l'argent pour 10 bennes hydrogène, je sais pas combien la ville a mis 1 million d'euros pour ces 10 bennes hydrogène, qu'elle fasse un plan pour peut-être qu'il faut renforcer l'offre de tramway, peut-être, etc. Enfin, je veux dire, il y a plein d'axes de levier si on veut un peu accompagner une autre mobilité.
Alors, je sais que, parlant du renforcement des lignes de tramway, je sais que, par exemple, on avait reçu à Radio Alpa il y a un mois à peu près, justement, la CETRAM, qui nous avait parlé un peu de ses plans. Et en gros, toutes les rames de tramway vont pouvoir accueillir plus de monde d'ici 2025 parce qu'ils vont les rallonger d'une ou deux voitures. Bon, c'est pas ça exactement, je crois que c'est caisse, d'une ou deux caisses. Ils vont aussi faire par exemple, avenue Bollée. Ils vont réaffecter les lignes de bus pour faire des lignes de bus plus rapides où il y aura plus de bus, comme ça les gens pourront prendre davantage sur les plus grandes lignes les bus. Donc est-ce que la CETRAM, au-delà de proposer 3 bus à hydrogène, ne réfléchit pas aussi?
Alors déjà, la CETRAM, elle exécute ce que le demande. Moi, je jette pas du tout la pierre à la CETRAM. Et effectivement, il y a clairement, je vais pas vous dire que tout ce que fait la CETRAM est pas bien, loin de là. Il y a pas de sujet là-dessus. Hein. Ce que je voulais juste dire, c'est que voilà, si on a de l'argent public à dépenser, autant le dépenser pour du développement du transport en commun ou de l'accompagnement de formation. Il y a clairement plein de moyens. Les aménagements cyclables, on peut en parler. C'est clairement pas à la hauteur. Enfin, je veux dire, vous voyez au moment. Donc voilà, de l'argent public à dépenser pour une mobilité compatible. Je rappelle qu'on doit diminuer nos émissions de CO2 de 5% par an, d'accord, si on veut respecter le plus de degrés à la fin du siècle, d'accord. Moins 5% par an, c'est le choc qu'on a eu en 2020. C'est la seule année où on a réduit nos émissions de CO2, d'accord. Je vous rappelle qu'en 2020,
on était tous confinés parce que tout le monde était chez lui,
on a arrêté le pays pendant plusieurs mois, quoi. C'est faut vraiment avoir en tête que le changement qui nous attend, il est majeur, et notamment sur les mobilités, quoi. Et donc là, il faut accélérer parce qu'on va se prendre le mur de manière très violente.
De plein fouet.
Un exemple, c'est la CETRAM, effectivement, gère ce qui se passe un peu intramuros, c'est-à-dire au moment même. Et donc là, en fait, on peut dire, effectivement, il y a pas mal d'efforts qui sont faits. Il pourrait y en avoir de plus, comme la gratuité des transports ou effectivement les vélos, enfin, d'autres modes de mobilité. Mais en fait, par exemple, c'est très, très peu développé le fait que quand on vient de la campagne et qu'on va aller en ville, comment faire pour se déplacer tranquillement? Est-ce que, par exemple, il y aurait des parkings relais ou d'autres choses qui permettraient de facilement et quand on est de la campagne, de pouvoir rentrer en ville sans sa voiture. Et là, en fait, aujourd'hui, ça n'existe pas du tout, quoi. Ou alors, en tout cas, c'est assez compliqué. Et rien que même pour prendre le train, comment se garer sans que ça coûte trop cher, etc. Donc, en fait, tous les liens entre ces mobilités et ces lieux, je pense que ça mériterait vraiment d'être beaucoup développé, quoi.
Mais enlever les 24 heures du Mans, ce serait enlever une partie du patrimoine. C'est comme si du jour au lendemain, on vous dit « Oh ben, on va détruire le château de Versailles ». Ce serait se mettre à dos les
autophiles. Le château de Versailles ne pollue pas, si je peux me permettre.
En tout cas,
beaucoup moins.
Il ne pollue pas, mais il y a beaucoup de monde pour aller le visiter.
C'est pas faux.
C'est pas enlever du patrimoine, c'est en mettre d'autres, en avant. C'est mettre le vieux Mans, c'est mettre... voilà. Moi j'étais quand même surpris. Moi, je suis pas manceau, je suis arrivé il y a quelques années au Mans. Il y a plein de sites super auxquels on les met pas du tout en avant, enfin, notamment le Vieux Mans, la Bille de l'Épaule, etc. Enfin, et donc il s'agit pas d'enlever du patrimoine, il s'agit de faire un choix sur quel patrimoine on choisit de mettre en avant. Et on a plein, que ce soit du patrimoine culturel ou artistique. Enfin, je pense à Le Mans fait son cirque. Voilà, on a clairement aussi une scène artistique qui est riche. Qu'on pourrait développer et mettre en avant bien plus que au lieu de sur les vœux du maire, au lieu qu'on ait une promo des 24 heures du Mans, peut-être qu'on pourrait avoir la promo d'un autre patrimoine, un patrimoine culturel un petit peu différent. Et
si je prends la place de quelqu'un qui est fan d'automobile, qu'on va appeler un autophile, je ne sais pas si c'est ça le terme.
C'est ça.
Mais merci. Mais en gros, s'il vous dit oui, mais du coup, ça fait que vous empêcheriez des centaines de milliers de gens de leur passion, donc d'un point de vue idéologie au niveau politique, priver les gens de leur passion, c'est pas tellement quelque chose qui plaît souvent. Et puis au niveau du patrimoine, ils se diraient ouais, enfin ça fait quand même plus de 100 ans d'histoire. Et puis les infrastructures, si on enlève, on en fait quoi? Qu'est-ce qu'on peut répondre à tout ce genre de questions, quoi?
Bah alors, déjà, il y a plusieurs questions, mais en gros, si on veut résumer un peu, par exemple, on pourrait dire, ça ressemble beaucoup à la corrida. En fait, la corrida, bah, effectivement, pour certaines personnes, c'est quelque chose qui est historique, ça leur plaît beaucoup, mais en fait, bah, voilà, l'air du temps fait qu'on va l'arrêter parce que c'est quand même du massacre d'animaux de façon publique qui est mis en valeur et c'est quand même assez horrible. Et en fait, bah, je crois qu'il y a quelques mois, là, il y a eu ces débats qui sont arrivés avec des interviews et j'entendais, en fait, à peu près la même chose où, en fait, on sait que ça va s'arrêter, mais c'est juste que les pour corrida essayent que ça dure le plus longtemps possible et que les anti-corrida, bah, essaye que ça s'arrête le plus tôt. Et nous, aujourd'hui, en tant que anti 24 heures, eh ben, on essaie juste que ça s'arrête le plus tôt possible. Et voilà.
D'accord. Donc, en fait, vous luttez maintenant, mais en sachant que ça prendra des années le temps que la balance s'inverse suffisamment entre
nous. En juin, il n'y aura pas de 24 heures.
Ah ouais?
On aimerait pouvoir le dire. Mais bon, après, c'est pas sûr. Et en fait, dans tous les cas, la question qu'on pourrait se poser, très simplement, chacun imagine. Est-ce que vous imaginez dans 10 ans, dans 20 ans, que les 24 heures du Mans existent toujours? En fait, là déjà, on parlait tout à l'heure de manque d'énergie. Là, il y a des sécheresses. En fait, la question, c'est est-ce que on continue à avoir des événements comme ça qui sont vraiment, bah, pour une certaine futilité quand même s'il y a des gens qui sont vraiment passionnés. En fait, dans la balance, est-ce qu'on continuera à avoir ce genre de choses, ce genre d'événements, quand il y aura plus d'eau, quand il fera 50 degrés l'été, quand il y aura vraiment, on va sentir de plus en plus, c'est pas tous les ans ou tous les deux ans, c'est vraiment, on va les sentir tout au long de l'année, ces événements extrêmes. Et ben, en fait, moi, je pense que dans très peu de temps, ben, on va se rendre compte et que c'est pas possible de continuer, quoi. Ça sera pas tenable.
D'accord. Donc, ça repose aussi sur un éveil des consciences.
Bah, on espère.
Essentiellement, votre action. D'ailleurs, votre action, vos actions. Alors, vous avez fait des manifestations à de multiples reprises. Vous avez étiré des banderoles. On peut trouver des très belles photos sur Internet. Quelles sont vos actions là, dernières actions actuellement, prochaines? Comment étendez-vous vos actions?
Bien, on a un petit peu relogoifié des œuvres d'art qui avaient été mis en lien avec les 24 heures, en fait, pour promouvoir les 24 heures. Voilà, on a lancé aussi une lettre par rapport à des questions qu'on avait sur les émissions carbone à la CO. Une lettre ouverte qu'on a envoyée à pas mal de journalistes. Voilà, après on essaye aussi de médiatiquement de faire parler un petit peu de nous pour que dans le débat public s'installe cette idée qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont contre les 24 heures. Parce qu'en fait, ça n'échappera à personne qui habite aux alentours du Mans que actuellement, on va dire tous les jours, il y a des articles sur le centenaire des 24 heures. Tel jour, il y a tel pilote. Tel jour, il y a telle voiture. Tel jour, il y a... Donc en fait, voilà, mettre aussi un peu de les médias qu'il y a des gens qui sont contre, ça fait du bien pour certaines personnes. Donc voilà, c'est un petit peu ça nos futurs. Mais sinon, sur le principe même, on n'est pas basé ou lié à des modes d'action précis. En fait, on est assez ouvert là-dessus et en fait, on fait ce qui se présente à nous en fonction des objectifs qu'on a et de ce qui va marcher, en fait, de ce qui va être dans le sens qu'on va faire. Donc voilà.
Mais maintenir la course, sachant que si on compte bien, il y a au moins une vingtaine de pilotes qui ont perdu la vie. Donc c'est aussi risquer des questions de sécurité.
Alors il y a la sécurité pour les pilotes, évidemment.
Et pour les spectateurs aussi.
Et pour les spectateurs, puisqu'il y a quand même des spectateurs dans l'histoire qui sont un certain nombre qui sont morts dus à des accidents de pilotes.
Oui.
Ça, c'est la sécurité, on va dire, d'un point de vue purement course. Après, les 24 heures du Mans, ça engage une sécurité sur toute la ville, parce que toute la ville est complètement bloquée. Ça engage aussi les questions, bah, malheureusement, on peut pas y échapper, mais de nos jours, ça engage toujours, à chaque fois, il y a des CRS qui se baladent en ville parce qu'il y a le risque attentat. Puis, mine de rien, l'écologie est aussi une forme de sécurité, à peut-être plus long terme, peut-être plus silencieuse le jour même, mais malgré tout. Donc, c'est vrai que l'aspect sécurité des 24 heures du Mans pose question, peut-être, quand même.
Ben, moi, je le verrais pas directement en tant que sécurité, dans le sens où ça peut être un peu dangereux, mais je le verrais plutôt le côté aussi financier, parce qu'en fait, toutes ces sécurités-là, ben, en fait, qui va payer derrière? Et puis, c'est des moyens qui sont mis là, alors qu'ils auraient pu être mis à d'autres endroits. Finalement, en fait, on va déployer une force policière vraiment très importante pour un événement qui est en partie privé. Donc moi, ça me pose question. En fait, tout ça pourquoi finalement à la fin ? Est-ce que c'est de l'argent public qui est dépensé pour pourquoi ? Est-ce que vraiment tous les Sartois ou tous les gens vont avoir un intérêt là-dessus ? Ça, je suis pas sûr quoi.
Bah, c'est clairement, je pense, il y a quand même un manque de transparence sur finalement quelle part du budget public est mis sur l'organisation des 24 heures par privé, etc. Et ça, c'est quelque chose qu'on aimerait bien plus de transparence de la part de la ville. Après, moi, je suis désolé, mais quand vous parlez de sécurité, j'ai quand même envie de vous rappeler, c'est il y a combien de morts par an de prématurés dus à la mauvaise qualité de l'air ? C'est 40 000. En France, on a 40 000 personnes qui meurent tous les ans de manière prématurée due à la mauvaise qualité de l'air. Clairement, l'enjeu, il n'est pas sur un potentiellement risque attentat ou je sais pas quoi. Je veux dire, en termes de santé publique, l'enjeu, c'est que là, au mois de février, on a eu un pic de pollution comme on n'avait pas eu depuis 2 ans. Est-ce que la ville a fait la moindre communication ? Est-ce qu'il y a eu des mesures pour essayer de réduire ?
C'est de 10 km/h, mais c'est de façon assez discrète.
C'est pas la ville, c'est le préfet, mais la ville a absolument rien fait là-dessus. Donc voilà, c'est qu'il y a un moment, combien de temps on va continuer d'être aveugle ? On a quand même, donc c'est pas Air Paris, c'est le Air Pays de la Loire, là, qui met des alertes, donc on était en alerte, donc on était bien au-delà des seuils, on était au-delà du seuil d'alerte de l'OMS. Et on continue à se balader dans la rue, à respirer
à faire tourner des voitures,
comme si tout allait bien. Je pense que clairement, il faut élargir sur finalement la santé santé de manière générale et pas. Moi, je suis pas inquiet. Enfin, je veux dire, je voudrais pas qu'on terrorise les gens et c'est pas parce que. Alors nous, on est plus pour effectivement arrêter les 24 heures, mais après, on peut faire d'autres événements festifs qui potentiellement devront aussi mobiliser. Des personnes pour encadrer ça et voilà, on n'est pas contre le moindre festival de musique ça, ou ouais. Autre chose hein, clairement.
Mais d'ailleurs par rapport à la question tout à l'heure de l'impact économique un petit peu de si ça s'arrêtait, nous vraiment on n'est pas contre des événements culturels festifs, mais c'est juste qu'en fait on se dit bah aujourd'hui c'est un événement où il y a 300 000 personnes qui viennent de quasiment toute la planète, il y a 70 jets, en fait on pourrait faire des événements plus petits avec des artistes locaux, on pourrait servir des infrastructures qui existent sur un circuit. Il y a des gradins, faisons une fête
qui soit beaucoup plus locale. Les vieilles charrues du Mans.
Mais en fait, on n'est pas obligé non plus de faire aussi grand que les vieilles charrues, parce que les vieilles charrues, c'est pareil, c'est un événement, je crois qu'il y a 200 000 personnes, quelque chose comme ça.
À peu près, ouais.
Donc, on pourrait faire plus petit. Et en fait, rappelons-nous que toutes les villes de France n'ont pas les 24 heures et se portent pas forcément mal. En fait, c'est pas parce qu'on perdrait les 24 heures du Mans. Alors, oui, peut-être qu'il y aurait certains hôtels, il y aurait certaines personnes qui louent leur jardin pendant les 24 heures. Effectivement, on peut pas dire il y aura zéro perte, mais c'est juste qu'en fait, c'est aussi pour un bien, quoi. Et il faut, si on met dans la balance tout ce qui pourrait, ce qu'on pourrait gagner et ce qu'on perd aujourd'hui actuellement, que ce soit en pollution, en voilà, tout un tas de choses, je pense qu'on aurait vraiment beaucoup, beaucoup à gagner à arrêter cette course.
Donc, dans la balance bénéfice-risque, il y a plus de bénéfices à l'arrêter et plus de risques à la maintenir. En gros.
Bah oui, bien sûr.
C'est juste une histoire de nombre d'années. Hein. Je veux dire, clairement, à moyen terme, il est évident que les 24 heures vont s'arrêter. Juste la question, c'est est-ce que
c'est quand
on prend un peu les devants et on fait ça de manière un peu intelligente ou on va jusque se prendre le mur ?
Ouais, c'est ça.
Et alors, dernière toute petite question, parce que là, le temps avance, donc on va bientôt se quitter. Une question qui peut paraître anodine, vu tout l'ampleur des sujets, donc l'écologie, l'économie, le patrimoine qu'on a évoqué. Une question qui peut paraître un petit peu plus anodine, mais qui malgré tout revient beaucoup. Les 24 heures du Mans, souvent, c'est mal reçu par les riverains, et en l'occurrence, ça fait tellement de bruit que je dînerais bien toute la moitié sud du Mans, parce que c'est une vraie source de pollution sonore, à la fois la course, puis toutes les personnes qui sont en ville, parce que quand il y a 200 000 personnes en plus au Mans, c'est quand même... on le sent aussi. C'est une source de fatigue. Enfin, socialement... Et même dans les campagnes en dessous, qui sont censées être entre guillemets plus tranquilles, socialement,
On a eu pas mal de retours parce qu'on avait déjà lancé un petit peu de quand on a lancé notre collectif. En fait, on a parlé de ça et de dire, en fait, si vous avez des vécus, d'expériences qui se sont mal passées, des choses. Donc oui, on a pas mal de retours de gens qui nous parlaient du bruit notamment, qui est assez insupportable. Mais même nous, en fait, on a aussi créé le collectif parce qu'on se rendait compte que En fait, je crois que c'est, je sais plus si c'est 240 ou 260 jours par an, le circuit en fait accueille des voitures qui font beaucoup de bruit, et en fonction de comment est le vent, et ben en fait, si on est au centre du Mans, et ben on entend les voitures toute la journée, quoi. Et donc ben en fait, on ne sait pas pour l'instant quoi faire de toutes ces données-là, parce que la réglementation bruit sur le circuit est assez spécifique, et en fait il faut avoir des micros qui soient à certains endroits, etc. Donc on est en train d'y travailler, mais pour l'instant on peut pas dire, on constate cette pollution sonore, mais on ne pourra pas, enfin on n'est pas en mesure pour l'instant de pouvoir émettre des critiques là-dessus, quoi.
Moi, juste pour finir, je serais curieux de savoir comment nos générations descendantes, dans quelques centaines d'années, milliers d'années, ils apprendront qu'en 2023, on s'amusait à faire rouler des camions pendant 24 heures le plus vite possible sur un circuit, à tourner en rond. Je veux dire, il y a quand même quelque chose qui est, alors que, je veux dire, on est au courant, je veux dire, on peut pas dire qu'on sait pas ce qu'on fait, quoi.
Ok, donc, ouais.
Bon, et alors, vous voulez rajouter un mot de la fin?
Un mot de la fin, vous avez libre antenne pendant une minute, profitez-en.
Eh bien, j'invite les gens qui sont intéressés par notre lutte à nous rejoindre. On est vraiment attentifs aussi à tout ce qui pourrait, comment dire, des gens qui seraient dans notre sens. Et donc, je vous invite à aller voir sur Demosphère ou de nous envoyer des messages aussi à notre adresse mail stop24h@riseup.net. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre, c'est vraiment avec plaisir. Et oui, voilà, on est dans une phase où on essaye d'avoir le maximum de gens avec nous et de montrer que on n'est pas seul et que voilà, si vous êtes contre les 24 heures et que vous êtes chez vous, vous n'êtes pas seul.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet échange. Merci à Victor et Hugo du collectif Stop 24 heures.
Merci à vous.
Merci d'être venu sur les ondes de Radio Alpa.
Charlie, je te rends l'antenne. Quant à nous, on se retrouve jeudi prochain, même heure. Gardez la pêche.
Eh bien, on se retrouve jeudi prochain, tout à fait. Moi, je ne vais pas tarder à rendre l'antenne aussi, de toute façon, puisque c'est la fin de l'émission. Vous pouvez retrouver dans moins de 10 minutes La Carotte, votre émission préférée de la soirée du jeudi. Et je vous dis à jeudi prochain. Salut.
On touche pas, camarade.
Quelle indignité.
Églantine Lévesque à l'animation.
Nous sommes sur le service public.
Charlie Tétillon à la technique.
Mais qui elle est celle-là? Qu'est-ce que le
FPR? Place au débat.
Qui vous a donné cet ordre?
Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Puis juste au-dessus très légèrement de zéro.
Faites mieux. Merci.
Picture this, 50-inch screen, money green, leather sofa. Got two rides, a limousine with the chauffeur. Phone bill about 2 G's flat. No need to worry, my accountant handles that. And my whole crew is lounging, celebrating